Emmanuel Macron tâte le terrain. En déplacement dans le Lot la semaine dernière, le chef de l'État a remis sur la table la réforme des retraites que beaucoup pensaient enterrée.
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'État. Ça ne sera pas la même et rien n'est exclu. Mais c'est un peu aussi dans le débat avec les Françaises et les Français.
Un brin énigmatique, Emmanuel Macron annonce qu'il va devoir prendre bientôt des décisions, certaines difficiles. À 10 mois de l'élection présidentielle, va-t-il prendre le risque d'essuyer une nouvelle fronde sociale ? En décembre 2019, une grève contre la réforme des retraites paralyse une bonne partie de la France. Pendant plusieurs semaines, les manifestations se succèdent.
Ce qu'on perdra est encore plus grand si on ne fait rien aujourd'hui. On joue notre avenir, notre survie.
La réforme prévoit alors la suppression des régimes spéciaux. Elle instaure un système à points et un âge pivot de départ à la retraite à 64 ans. Une réforme jugée trop complexe par ses opposants. Fin février 2020, Édouard Philippe décide de passer en force en déclenchant le 49-3 en urgence un samedi.
J'ai décidé d'engager la responsabilité du gouvernement sur le projet de loi instituant un système universel de retraite.
Balayé par la crise de la Covid, suspendu sine die par Emmanuel Macron, la réforme des retraites refait surface.
Ils réfléchissent à autre chose, reculer l'âge de la retraite, pouvoir cotiser plus de trimestres. Donc le résultat elle-même, c'est qu'ils veulent nous faire travailler plus longtemps. Donc il faut rester mobilisé.
Alors comment combler le déficit du système de retraite ? À quoi pourrait ressembler la réforme nouvelle version ? Est-elle nécessaire dès maintenant ?
La réforme des retraites est-elle une exigence de Bruxelles, de l'Europe, pour que la France puisse bénéficier des fonds du plan de relance européen? Erwan Tizon, ça a été démenti par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a dit que ce n'était pas pour l'Europe mais pour la France que cette réforme allait être engagée. Est-ce que c'est malgré tout un signal qui est adressé à nos voisins européens?
Oui, puisque
l'Allemagne, notamment.
C'est pas une condition sine qua non, mais vous avez de toute façon des hétérogénéités qui sont à gommer d'un point de vue budgétaire au sein de la zone euro. C'est normal quand on partage la même monnaie, qu'on partage la même politique budgétaire, la même politique. En tout cas, c'est normal d'avoir des standards communs. Donc effectivement, il y a des gages. En tout cas, vous voyez, dans ce qu'on appelle le semestre européen, c'est les préconisations que réalise la Commission européenne à destination des pays. Effectivement, réformer le système de retraite revient souvent, mais de là le conditionner au plan de relance, je ne pense pas que ce soit.
Ça n'a pas l'air d'être le cas.
Voilà.
Alors revenons au déficit du système des retraites. Français Claude, avec votre chiffre du jour.
Chiffre du jour qui a fuité d'une noble institution, le Conseil d'orientation des retraites. C'est l'organisme que, depuis le gouvernement de Michel Rocard, guide nos politiques en matière de retraite. Donc le chiffre du jour, 13, comme les 13 milliards de déficit de notre système global de retraite. En 2020, ça a l'air énorme, ça l'est, mais ça aurait pu être pire, puisque dans un premier temps, ce Conseil d'orientation pensait que nous serions à 25,4 milliards de déficit. Il n'empêche Éric Heyer, 13 milliards, c'est beaucoup quand on sait qu'à la sortie du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le système était à l'équilibre. Quelle est cette malédiction qui fait que le déficit revient ?
C'est une crise conjoncturelle. Enfin, oui, alors, à part si on pense que cette crise aujourd'hui est une crise structurelle et que ça ne va jamais remonter et qu'on a perdu définitivement l'activité, auquel cas ces déficits sont structurels, il faut le combattre. Imaginons que ça ne soit que conjoncturel. Ouais, imaginons que l'activité reparte, même reparte plus fortement, et qu'on rattrape d'ici 2 ans. Vous voyez, il n'y a pas urgence à réagir.
C'est-à-dire conjoncturel, lié à la crise du Covid, d'accord, simplement
c'est
cela.
Alors, en tout cas, aujourd'hui, c'est à cause de cela. C'est-à-dire que globalement, en 2020, on fait moins 8 d'activités. Vous voyez, quand vous faites moins 8 d'activités, vous avez moins de recettes, vous avez un déficit qui se creuse, puisque les dépenses, vous n'y touchez pas. Donc, est-ce que, c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est conjoncturel, est-ce que ça va repartir, et auquel cas, ces 13 milliards vont disparaître, ou est-ce que c'est structurel? Et si c'est structurel, alors effectivement, il faut une réforme paramétrique, parce qu'effectivement, les retraites doivent être...
Pardon, réforme paramétrique, oui. Personne ne comprend.
C'est-à-dire que globalement, vous avez des dépenses de retraite, il faut avoir des recettes qui financent ces dépenses, puisqu'on a décidé en France que la réforme serait, ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent pour les retraités d'aujourd'hui. Donc on n'a pas à laisser aux générations futures un déficit. D'accord. Donc la question c'est, est-ce que aujourd'hui le déficit est lié au fait que le gouvernement, et d'autres gouvernements, mais en tout cas ce gouvernement, a pris la décision de mettre sous cloche l'économie. Et donc c'était une décision économique, et donc c'est pas ni aux retraités à payer, ni aux actifs à payer, mais c'est bien du déficit, et donc les générations futures potentiellement pourront participer au fait que on a dû à un moment donné prendre des mesures sanitaires.
Catherine Perret, structurel ou conjoncturel ?
conjoncturel. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites détaille d'ailleurs avec précision effectivement que ce déficit, qui est beaucoup moins important que prévu et qui n'est pas, il n'y a pas péril en la demeure, c'est essentiellement conjoncturel. Trois raisons à ça. Le chômage partiel. Vous savez que le chômage partiel n'entraîne pas de cotisation. Les retards de paiement. Et naturellement, on a soutenu l'économie et il fallait soutenir les secteurs, notamment en particulier l'hôtellerie et restauration. Et donc, ça a entraîné un retard de rentrée de recettes, mais qui rentre. Finalement, ils rentrent plus que prévu. Et puis, la question, évidemment, de l'emploi, puisqu'il y a eu aussi des emplois qui ont été perdus et donc moins de cotisations sociales qui sont rentrées. Donc, clairement, le Conseil d'orientation des retraites, jeudi, quand il officialisera son rapport, il dit qu'il n'y a pas d'urgence à réformer les retraites. Et même, il dit, d'ici 2070, il n'y a pas de péril en la demeure.
D'ici 2070, il se projette dans 50 ans.
Il n'y a pas de péril en la demeure. On reste à peu près à 13%, 13,7% du PIB, ce qui est quasiment l'argent qu'on consacre aux retraites aujourd'hui.
Erwin Tison, quand vous entendez ce diagnostic qui prétend voir si loin, qu'en pensez-vous ?
Oui, bah après, il y a plusieurs scénarios du corps. Il y en a un, le scénario TCC, qui estime qu'on serait à 30 milliards de déficit en 2030. Mais je pense qu'il ne faut pas regarder ça que sous l'angle de déficit. Effectivement, 13 milliards, déjà, c'est beaucoup. Mais il y a quand même des faiblesses structurelles à notre système de retraite qui n'ont pas du tout été corrigées par la crise. Il y a trois grands problèmes à notre système de retraite. Le premier, c'est que, premièrement, il est inefficace. L'économiste Patrick Artus avait fait un petit calcul. Tout cela est très théorique, mais ça reste en tout cas de la théorie. Si jamais on avait investi un euro en répartition dans le système actuel, en 1980, on en récupère 2 aujourd'hui. Si ça avait été dans un système par capitalisation, on récupérait 20 euros aujourd'hui, donc 10 fois plus. Deuxièmement, il y a de fortes...
Par capitalisation,
concrètement, en fait, vous placez votre argent sur les marchés financiers ou dans des fonds de pension qui vous permettent en fait d'avoir des rendements plus élevés. Deuxième problème, qui sont les iniquités intragénérationnelles.
C'est-à-dire ?
En fait, tout simplement, entre les retraités eux-mêmes, vous avez en fait une retraite moyenne qui est aux alentours de 1500 euros, et une retraite médiane qui est autour de 1200 euros. Vous avez des gaps qui sont absolument énormes.
Des différences.
Vous avez une différence d'espérance de vie de 6 ans entre les 5% les plus riches et les 5%
les plus pauvres. Entre les hommes et les femmes également.
Vous avez 42% d'écart de retraite entre les hommes et les femmes. Vous avez énormément d'écart entre les retraités. Et puis aussi, des inégalités intergénérationnelles entre les retraités et les actifs. Le revenu moyen des retraités est supérieur à celui des actifs. Et surtout, il y a un problème dont on n'entend pas souvent parler, c'est le taux d'actualisation. Quand vous faites la somme, quand vous faites le calcul de la somme de tout ce qu'une personne née dans les années 40 à cotiser par rapport à ce qu'elle va recevoir, elle va recevoir 200% de plus que ce qu'elle a cotisé. Dans les années 60, on est à 160%. Quelqu'un de ma génération, 1980-1990, il est à peine à 90%. C'est-à-dire que mes grands-parents vont recevoir deux fois plus en retraite que ce qu'ils ont cotisé par rapport à moi, qui vais recevoir beaucoup moins que ce que j'ai cotisé. Donc, il y a quand même en fait des inégalités qui sont à résoudre, ne serait-ce que pour réduire quelque part les inégalités par les retraités, entre les générations. Et je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'une réforme du système de retraite, au-delà du simple déficit budgétaire.
Bon, et puis il y a encore un autre problème, c'est le taux d'emploi.
Oui,
plus de 55 ans.
Oui, des seniors, comme on dit assez publiquement, parce que s'il faut travailler plus longtemps, encore faut-il avoir un travail. Cette réforme des retraites, ça pose également la question du taux d'emploi des seniors, également sur les statistiques françaises sur les fins de carrière. On a beaucoup entendu que la France était à la traîne avec un taux d'emploi des plus de 55 ans les plus bas d'Europe. C'était parfait. Vrai, mais jusqu'en 2019, où il était en effet à peine de 53%. Mais, et les derniers chiffres sont assez déroutants, l'emploi des seniors donc a augmenté en 2020. La proportion des 50-64 ans en activité s'est élevée l'an dernier à 63,3%. Donc ça va mieux, mais ça reste à relativiser puisque les 60-64 ans, eux, sont totalement hors du marché de l'emploi puisque seuls 33% d'entre eux travaillent. Et puis surtout, il y a une autre tendance qui est en train de se dessiner qui est très inquiétante. De plus en plus d'entreprises poussent les plus de 55 ans vers la sortie en ayant recours à ce qu'on appelle là aussi pudiquement des mesures d'âge, des dispositifs comme le rachat de trimestre, les congés de fin de carrière dont usent et abusent beaucoup de grands groupes en ce moment, ces derniers mois. On peut citer Airbus, Safran, Total, Renault et d'autres qui sont en train de restructurer avec ces aménagements. Les PME qui ne peuvent pas se le permettre, quand elles veulent se séparer d'un senior, le licencier pour qu'il perçoive ses droits au chômage. Là, on appelle ça des pré-retraites Pôle emploi, Éric Ayer. L'urgence, s'il y a une urgence, c'est pas de travailler sur le maintien dans l'emploi davantage que sur le système des retraites.
Alors, ça peut aller de pair.
On pourrait faire les deux, mais il y a un vrai problème malgré tout.
Oui, il y a un vrai problème. Non, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut tenter de vouloir augmenter l'âge de départ à la retraite, mais il va bien falloir que les personnes travaillent et ne soient pas au chômage pendant cette période-là. Sinon, vous baissez peut-être le déficit des retraites, mais vous augmentez celui de l'assurance chômage. Et donc, en termes de finances publiques, c'est pas beaucoup mieux. Donc, effectivement, on sait très bien que les mesures d'âge, dans un premier temps, ça fait augmenter le chômage. D'accord. L'idée, c'est de se dire, mais par contre, ça va faire de la croissance potentielle, donc de la croissance pour demain, et donc ça peut avoir un effet d'entraînement. Mais à court terme, ça fait augmenter le chômage.
Pourtant, c'est quelque chose qui est proposé par une partie de la classe politique, et c'est comme ça, par une mesure d'âge, l'avancée de l'âge, le recul de l'âge de départ à la retraite, qu'on avait calmé les déficits sous Sarkozy.
Alors, il y avait cette mesure d'âge, mais il y avait aussi la désindexation des retraites sur les salaires, et on les a mis sur l'inflation. Et c'est cette principale mesure
qui ramène
petit à petit à l'équilibre et qui va faire que les pensions demain seront plus faibles en termes de pouvoir d'achat. Ça, il faut quand même avoir en tête, c'est que globalement, il y aura une paupérisation des retraités à venir, mais qui est déjà engagée dans les retraites. Hein. Donc ça, c'est déjà acté, il faut attendre. C'est simplement quelque chose d'assez lent comme phénomène. Mais l'effet avec l'emploi, oui, c'est assez central. Hein. Donc qu'on essaye, on a les taux d'emploi chez les jeunes et chez les seniors les plus faibles des grands pays. Donc effectivement, que l'on se dise, est-ce que c'est, quand on parle de durée du travail, est-ce que c'est pas effectivement chez les jeunes où on pourrait attirer un peu plus rapidement et chez les seniors les retenir? Oui, mais c'est pas en faisant des mesures d'âge qu'on va y arriver. Hein. On peut y arriver par là, mais là c'est douloureux. C'est plutôt par des incitations, par de la formation tout au long de la vie. Pourquoi les entreprises veulent se débarrasser?
C'est-à-dire la formation continue, la formation...
C'est parce qu'au bout d'un moment, on est un peu moins productif. Parce qu'on s'est éloigné de nos compétences.
Catherine Perret et Erwan Tison, Éric Ayer, avec des mots différents, disent que le système actuel n'est pas juste. Il est injuste envers les jeunes générations principalement. Quel type de réforme faudrait-il pour que nos retraites ne soient pas synonyme d'égalité accrue?
Il faut consacrer plus d'argent à la protection sociale. Et la CGT, au moment de la mobilisation contre la réforme à point, hein, Macron, que tout le monde maintenant a compris qu'elle était destinée à accélérer la baisse des pensions et à déplacer artificiellement l'âge de la retraite en créant, je dirais, une confusion, c'est-à-dire en faisant disparaître l'âge légal, hein, quand même. Je le rappelle, parce que l'objectif, c'était celui-là. Et tout le monde l'a compris. Rappelez-vous, 2/3 des Français étaient opposés à la réforme à point en 2019-2020. Donc, nous, on avait opposé un contre-projet. Si on veut mettre en place, effectivement, des mesures, parce que je suis d'accord avec mon voisin de gauche, si
de gauche, de droite,
il y a effectivement des inégalités intragénérationnes.
Vous êtes d'accord avec
entre les femmes et les hommes? Mais je suis pas d'accord sur les propositions pour remédier à ça.
Pourquoi ne pas aller chercher ailleurs des financements? Ce que proposait Erwan Tison, pourquoi ne pas effectivement envisager des retraites par capitalisation?
Alors, parce que si on envisage les retraites, tous les pays qui ont fait ce choix-là, ils ont vu une érosion du niveau de pension. Imaginez le contexte de la pandémie. Avec l'effondrement de l'économie, ça donne quoi, des retraites par capitalisation?
Ça donne quoi, Erwan Tison?
Le CAC 40 est au plus haut maintenant, malgré la crise, avant son niveau crise. Donc ce n'est pas un argument qui, malheureusement, peut tenir.
Je pense que ça crée encore plus d'inégalités. Non, mais il faut consacrer plus d'argent à la retraite. Alors, nous, on a des propositions, on avait chiffré 100 milliards d'euros d'ici 2050 pour améliorer les droits. Alors, je vais prendre quelques exemples, parce que dans le financement, égalité salariale entre les femmes et les hommes. Tout le monde est d'accord. On fait un sondage, tout le monde est d'accord sur le fait qu'on a quand même pris beaucoup de retard. C'est 6,4 milliards directement pour les retraites et pour permettre de généraliser...
L'égalité entre les femmes, ça financerait...
Ben oui, parce que ça fait rentrer des cotisations sociales supplémentaires. Alors encore faut-il mettre en place une politique où on n'exonère pas justement jusqu'à 1,7% du SMIC. Hein. Mais quand on paye les femmes à la hauteur de leur qualification, quand on paye les jeunes à la hauteur de leur qualification, ça fait rentrer des cotisations sociales qui permettent de généraliser, par exemple, les mêmes droits pour toutes les femmes, qu'elles soient du privé, du public ou même les indépendantes.
Ailleurs, est-ce que tout est lié? Est-ce que les réformes sont liées? Est-ce qu'il faut faire des économies ou mieux gérer les retraites pour pouvoir financer la protection du grand âge?
Alors, tout est un peu lié, mais alors, les retraites, on peut quand même un peu le mettre à part dans le sens où il faut que ça soit financé généralement, et à part un déficit conjoncturel, on ne doit pas admettre un déficit structurel des retraites, d'accord, parce que c'est de la répartition. Ensuite, oui, c'est quand même lié, parce que vous prenez des mesures pour la retraite, ça va avoir des conséquences sur le chômage dans un premier temps, et donc vous pouvez